La danse des mots. Yvan Amar.
Bonjour. Pratique et enjeu de l'interculturel, ça c'est une belle formule. Eh bien, c'est elle qui barre la une du Français dans le monde, qui, lui, est une belle revue, lui ou elle, selon qu'on dit une revue ou le Français dans le monde, une revue pédagogique qui se consacre à la didactique du français et qui est essentiellement destinée aux professeurs de français dans le monde, ceux qu'on appelle les professeurs de FLE, de français, langue étrangère. Alors, comment utilise-t-il l'interculturel? Culturel. Pourquoi? Et d'abord, l'interculturel, qu'est-ce que c'est? Voilà un certain nombre de questions que j'aimerais bien poser à l'une des coordinatrices de ce dossier, Dominique Groux. Bonjour Dominique Groux.
Bonjour.
Vous avez donc coordonné ça avec votre collègue Fabrice Barthélémy, qui lui est maître de conférence à l'Université de Franche-Comté. Vous avez longtemps enseigné à l'Université des Antilles, mais pas uniquement, puisque j'ai vu que vous aviez enseigné depuis la maternelle jusqu'à l'université. Mais quel large spectre, dites-moi. Vous avez eu toutes les cohortes et toutes les classes d'âge, alors?
Tout à fait. Et j'ai pu travailler sur l'interculturel à tous les niveaux.
Oui, et l'interâge aussi. Est-ce qu'il y a des choses que l'on retrouve quand on enseigne à des bambins de 3-4 ans, puisque la maternelle commence à cet âge-là, et à des doctorants qui peuvent en avoir 25?
Oui, tout à fait. Par exemple, on se rend compte que pour des enfants de maternelle, bien la rencontre avec l'autre ne pose pas tellement de problèmes.
Parce que n'importe qui est un autre quand on est petit. Alors que quand on a 25 ans, on pense qu'on sait tout.
Oui, je pense qu'il y a peut-être de cela. Oui.
Alors, ce concept, cette notion d'interculturel, elle est un peu controversée parfois, et en même temps, on en entend trop parler. Ce qui fait que dans l'introduction à ce dossier, qui est très bien fait dans cette revue Le Français dans le Monde, on nous dit que c'est de temps en temps un concept pédagogique fourre-tout. C'est-à-dire que c'est une auberge... J'ose à peine dire qu'elle est espagnole, mais on y met un petit peu de tout. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette ambiguïté du concept, Dominique Groux? Est-ce que vous trouvez qu'il est malmené et que de temps en temps, il est peut-être un petit peu galvaudé?
Il est un petit peu galvaudé, certes, mais c'est un concept, à mon avis, essentiel. C'est un concept qui marque bien sûr le rapport à l'autre, le rapport entre l'ego et l'alter. C'est un concept qui permet de travailler sur la relation avec l'autre et surtout sur la prise en compte de l'autre dans sa différence. Et en ce sens, il est vraiment essentiel.
Alors, ce qui veut dire que lorsqu'on enseigne une langue étrangère, on ne peut pas considérer cette langue comme un tout qui est séparé des conditions qui l'ont produit, mais on enseigne en même temps ce qu'on appelait jadis la civilisation, ou en tout cas la culture, la mentalité, les façons d'être, la littérature peut-être, la façon de manger, la gastronomie. Tout ce qui a produit, en fait, une langue doit être enseigné pour faire passer cette langue, pour que ça soit pas une espèce de sphère qui flotte dans l'air, quoi.
Oui, tout à fait. Et la langue en elle-même est porteuse de culture. Et bien sûr, c'est la culture au sens large qui est travaillée, dans le sens où il s'agit de toutes les cultures, hein, la culture ethnique, la culture anthropologique, la culture générationnelle, etc., culture sociale. Donc toutes ces formes de culture sont travaillées dans le concept d'interculturel. Et là, ça ouvre un champ d'activité qui est considérable.
Est-ce que c'est un concept ancien? Alors, à quel moment est-ce qu'on a commencé à en parler? Dans les années 70?
Alors, c'est Louis Porcher, hein, qui a introduit le concept d'interculturel en France. Et il travaillait à l'époque au Conseil de l'Europe, parce que le Conseil de l'Europe avait mis en place une commission pour l'accueil des enfants de migrants, la scolarisation des enfants de migrants en Europe. Et lui était rapporteur de cette commission. Et c'est lui donc qui a introduit dans les années 74 le concept.
Oui, son premier rapport, je crois, date de 1974.
Tout à fait, tout à fait. Il y a un ouvrage donc qu'il a publié en 81 qui s'intitule « L'éducation des enfants de travailleurs migrants en Europe ». Et là, il parle d'interculturalisme. L'interculturalisme et la formation des enseignants.
Alors, il s'agissait à l'époque de quelle interculturalité, justement, sachant que son exemple regardait les enfants de migrants nés ailleurs qu'en France, oui. En général en Afrique du Nord, ou parfois d'ailleurs nés en France, puisque ça a été la génération de ce qu'on a appelé les beurs, c'est-à-dire qu'il y avait la deuxième génération des parents travailleurs immigrés, nés dans le nord de l'Afrique, venant travailler en France, ayant des enfants en France.
Tout à fait. Et, il s'agissait à l'époque, enfin, dans l'esprit des personnes qui travaillaient au Conseil de l'Europe, il s'agissait de mettre en place des enseignements qui favorise le rapprochement entre ses enfants et les enfants des pays d'accueil. Et c'est à cette époque-là aussi qu'on a mis en place les ELCO, les enseignements de langue et culture d'origine. Et donc, bon, ces ELCO étaient pris en charge par les pays d'origine.
Et, bon, alors, et ça se donnait où, ces ELCO ? Dans les écoles du service public ou dans des lieux particuliers ?
Alors, ça se donnait dans les écoles du service public. Alors, parfois, ces cours étaient intégrés à l'enseignement, à l'emploi du temps, et parfois, ils n'étaient pas intégrés. Alors, bon, ce qui était aussi intéressant dans l'esprit des personnes qui ont introduit le concept, c'est qu'en fait, avec ce préfixe inter, il s'agissait de faire dialoguer les cultures. Et il ne s'agissait pas de faire un enseignement uniquement pour les enfants de migrants, il s'agissait de faire en sorte que les enfants de migrants apportent aussi leur richesse aux enfants du pays d'accueil.
Alors, le gros obstacle dont il faudrait se méfier, le gros risque, c'est de faire passer la culture de l'autre à travers un album de clichés, d'une certaine façon. À travers des stéréotypes, des images toutes faites, qui masquent plutôt qu'ils ne font comprendre. Comment éviter cet écueil, justement, Dominique Gou ?
Alors, oui, les stéréotypes sont utiles dans la mesure où on peut s'appuyer sur eux pour les déconstruire.
Pour les démonter. Et parfois d'ailleurs, pour susciter une envie de langue étrangère. On voit ça à l'inverse quand on enseigne le français et qu'on demande à des gens « Mais pourquoi vous voulez apprendre le français ? Qu'est-ce que ça vous évoque ?»« Ah, ça m'évoque la mode. Ah, ça m'évoque les parfums. Ça m'évoque le bon goût, la distinction. » Et parfois, on vous dit « Ah, ça m'évoque les droits de l'homme, l'égalité, Robespierre, etc. » Ce qui est terriblement vrai et faux parce que c'est réducteur. Mais en même temps, il faut peut-être pas trop mépriser ces clichés. Il faut les utiliser comme point sur lesquels on s'appuie.
Tout à fait. Oui, parce qu'en fait, c'est ce que vous venez d'évoquer là, ce sont des produits d'appel en fait, et on a envie d'étudier la langue de ce pays où on propose toutes ces richesses. Et effectivement, comment travailler alors sur les stéréotypes? Bon, c'est assez facile. Il suffit de demander aux élèves ce que le pays évoque pour eux et de faire émerger ces stéréotypes. Et à partir de là, on les enrichit, on fait autre chose. Thank you.
Michel Deghecello dans la danse des mots, une bassiste qui chante, elle a une belle voix certes, mais c'est quand même une instrumentiste virtuose d'abord. Revenons donc à cette interculturelle, à cette notion si controversée, si en fait difficile à comprendre, Dominique Groulx. On vient de parler un petit peu des clichés. Bien sûr, on évoque les différences. Est-ce qu'il y a un risque à trop mettre l'accent sur les différences de culture entre la culture source et la culture cible, quoi, culture d'origine et la culture qu'on vise, qu'on essaye d'apprendre, est-ce qu'il faut mettre en parallèle les différences avec les ressemblances?
Oui, c'est vrai que il peut y avoir un risque parce que si on met trop l'accent sur les différences, eh bien on risque de séparer. Alors que moi, il me semble qu'il y a un concept qui peut être aussi intéressant, c'est le concept d'altérité.
Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'altérité, justement?
L'altérité, ce serait peut-être davantage mettre l'accent sur ce qui est commun, sur ce qui nous rassemble, peut-être sur le concept d'humanité, tout ce qui fait que nous sommes semblables et que nous partageons des valeurs communes.
Est-ce que vous avez l'impression que dans d'autres domaines, on avait de l'avance par rapport à la pédagogie? Par exemple, dans le domaine des affaires, quand il s'agit de vendre ou d'implanter une entreprise dans un autre pays que sa contrée d'origine, est-ce qu'on s'est intéressé, pour des raisons de rentabilité, à cette notion d'interculturel?
Oui, l'interculturel, c'est une notion qui préexistait déjà. Au moment où quand le Conseil de l'Europe a effectué ses travaux, eh bien, il y avait déjà une place importante qui était faite à l'interculturel dans l'entreprise. Et actuellement, bien sûr, c'est la même chose, parce que des cadres qui vont s'expatrier, vivre en Chine ou au Japon, eh bien, il faut qu'ils connaissent les codes culturels de la culture dans laquelle ils vont vivre.
Et souvent, ils sont formés avant même qu'on les envoie là-bas. C'est-à-dire, l'entreprise se soucie de la façon dont ils vont d'abord représenter l'image de leur entreprise, et puis vivre, donc travailler.
Oui, oui, oui. Ils sont formés avant même de partir, travailler à l'étranger. Et cette formation continue une fois qu'ils sont dans le pays.
Et est-ce que ces formations ont pu servir plus ou moins de modèle pour une perspective didactique? Est-ce que Louis Porcher et puis les gens qui ont travaillé avec lui et derrière lui, puisqu'il est mort récemment, il y a quelques années, il y a 2 ans, je crois, est-ce que ils se sont inspirés des techniques qui avaient été mises au point, justement, dans un but purement commercial, pour se dire, on pourrait peut-être faire à peu près la même chose quand on enseigne la langue.
Oui, tout à fait. Mais il y a des ouvrages aussi qui ont inspiré les didacticiens également. Je pense à Edouard Thiol. Gert Hofstede aussi, ce sont ces théoriciens qui étaient aussi à l'origine des recherches pour l'interculturel en entreprise et qui ont aussi inspiré les enseignants de français.
Donc on ne s'est pas trop méfié du monde de l'entreprise, parce que de façon générale, et surtout dans ces années 70, un peu post-68arde, beaucoup d'intellectuels se méfiaient de tout ce qui pouvait justement ressembler à une logique entrepreneuriale.
Oui.
Là, c'était plus large, c'était plus libéral comme façon de voir les choses.
C'était plus libéral. Et puis dans le concept même d'interculturel, il y a une approche morale, une approche éthique.
Oui.
Donc, c'est vrai que l'éthique, c'est intéressant aussi dans la mesure où elle transcende les morales qui sont contextualisées. Et donc là, je crois que c'est il y a derrière les valeurs et les valeurs justement qui nous rassemblent.
Parce que cet interculturel va avec un souci de l'autre, avec un souci de soi, avec une notion de respect mutuel, d'approche.
Oui. L'interculturel n'est de sens que s'il favorise justement la compréhension de l'autre, le respect de l'autre. Je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important, cette notion de respect. Et d'ailleurs, c'est très important, on le voit dans les classes actuellement, où les élèves revendiquent le droit au respect.
Et ils le revendiquent souvent par rapport à, disons, une différence quand on regarde la norme. Parce que en voilà aussi une notion qui est incroyablement galvaudée.
Oui.
Alors que c'est un beau concept. Enfin, il a servi à tout depuis 15 ans, cette histoire de respect. Presque au pire de temps en temps. C'est-à-dire à justifier des violences, des revendications, des injustices, au nom d'un respect qui était brandi de façon un peu rapide.
Oui, oui, tout à fait. Mais je pense que c'est peut-être un climat d'ensemble qui est plutôt revendiqué. Dans l'enseignement, la notion qui me semble, moi, assez essentielle, c'est la notion de confiance. Confiance entre l'enseignant et les élèves, confiance entre les élèves eux-mêmes. Et à partir de ce moment-là, je crois que c'est peut-être, à mon avis, c'est peut-être plus intéressant de repenser le climat de classe dans l'ensemble, parce que ça a des répercussions aussi sur le climat sociétal.
Cousin, cousine, cousine, Mélissa Lavaux qui chante en créole et qui nous évoque bien sûr l'interculturalité de ses cousins. Alors, Dominique Groulx, vous qui très souvent, non seulement avez été prof, mais avez été formatrice de prof, c'est-à-dire prof de prof d'une certaine façon, quel conseil est-ce que vous pouvez donner? Quelle piste pédagogique claire et concrète vous pouvez évoquer quand justement vous donnez des conseils à des jeunes profs ou à des profs moins jeunes d'ailleurs?
Oui, il me semble qu'il y a une entrée qui est intéressante, c'est l'entrée par les universels singuliers. Par exemple, si on travaille sur le thème de l'eau. L'eau n'est pas vue de la même manière dans toutes les cultures. L'eau, elle est travaillée dans tous les arts, en poésie, en musique, etc. Et je pense qu'on peut comme ça prendre quelques universels singuliers et les décliner selon les cultures.
Qu'est-ce que vous appelez exactement un universel singulier?
Mais c'est quelque chose qui existe partout et qui est traité de façon différente dans les différentes cultures. Bon, je pense à l'eau, je pense à la mode, je pense à l'amour, je pense.
Sur la mode, comment on peut traiter la mode comme un universel singulier? C'est vrai qu'il y a des dandies un petit peu partout, oui. Et que partout il y a des gens qui plus ou moins s'intéressent à l'effet qu'ils font et à l'aspect qu'ils donnent à voir.
Oui, et puis il y a la mode, il y a une dizaine d'années, une vingtaine d'années. Dans l'histoire, on peut traiter ces phénomènes de façon historique et de façon géographique aussi. Et la mode, c'est très facile de faire travailler des élèves sur la mode parce qu'eux-mêmes sont dans cette mouvance. Et donc on peut les faire travailler de façon concrète, mais on peut aussi s'appuyer sur la littérature. Parce que la littérature, elle est aussi universelle. Il y a aussi des thèmes qui sont traités de façon universelle. L'amitié.
Alors, comment on fait pour travailler sur la littérature? Bien entendu, on peut dire à ses étudiants, vous étudiez le français, donc vous allez lire Le Cousin Ponce, La Recherche du Temps Perdu et La Condition Humaine. Il faut qu'ils aient un bon niveau. Quand vous avez des étudiants beaucoup moins avancés que ça, comment les faire entrer dans la littérature d'un pays?
Mais quand on a, alors si on a des enfants qui vont apprendre le français, enseignement précoce, là on peut les faire entrer dans la littérature par les contes, bien sûr, par les contes d'autres pays. Ensuite, on peut les faire rentrer aussi par la biographie, par des textes autobiographiques. Et là, j'ai une étudiante qui travaille dans un collège de banlieue à Villiers-le-Bel sur l'autobiographie avec ses élèves. Et ça
fonctionne. Est-ce que vous savez quel type d'autobiographie justement elle a choisi pour les livrer à ses élèves?
Alors, ça va de Montaigne, Rousseau. Elle travaille aussi sur des extraits de Saint-Augustin, mais elle travaille aussi sur des auteurs francophones. Et ça parle aux élèves, parce que elle a fait une petite enquête ensuite pour voir si les élèves se retrouvaient dans certains textes, et les élèves réagissent et découvrent l'altérité de l'autre et se découvrent eux-mêmes dans leur propre identité.
Et il est vrai que l'autobiographie est un genre tout à fait particulier, puisque la plupart du temps, on écrit ça quand on a un certain âge, mais on essaye de se remémorer qui on était quand on avait 2 ans, 4 ans, 8 ans, 10 ans, et on n'écrit pas comme un enfant de 4 ans ou de 8 ans, mais souvent l'écriture en est assez facile, parce que justement, on se regarde enfant.
Oui. Il y a cette distance par rapport à son propre parcours, et il y a en même temps... une distance qui est prise et ça me semble intéressant parce que cette distance, bon, c'est un petit peu comme dans le lecteur In Fabula de Umberto Eco, il y a autant de lectures que de lecteurs en fait, et les enfants vont s'assimiler au locuteur ou vont prendre de la distance, mais en tout cas, ça va agir sur leur propre identité et sur leur conception de l'altérité.
Alors, Dominique Groux, est-ce que cette notion d'interculturel, elle est très présente quand on forme des futurs profs de langue, que ce soit de français ou d'autres choses? Est-ce que maintenant, on a réfléchi sur la façon dont on allait sensibiliser les enseignants au fait d'intégrer l'interculturel à leur pratique enseignante?
Oui, je pense qu'on a vraiment travaillé sur ce sujet. J'avais fait une enquête il y a une quinzaine d'années à l'époque c'était les UFM, et il y avait très peu
les UFM, qui sont donc ces écoles qui forment SP. des instituteurs, aujourd'hui on dit des professeurs des écoles.
Tout à fait.
Ça s'est appelé école normale, puis UFM, bon, ça change.
Oui.
En effet.
Oui. Et à l'époque ce n'était pas systématique, il y avait très peu de formation des professeurs à l'interculturel, mais maintenant je crois qu'on peut dire que dans pratiquement tous les établissements, il y a une dimension formation à l'interculturel.
Et comment fait-on pour enseigner ça?
Eh bien...
Est-ce qu'on l'enseigne à la faveur d'un autre enseignement? Est-ce que c'est un enseignement oblique, transversal, qui passe dans les disciplines? Ou bien est-ce que maintenant on va dire, ça y est, cours d'interculturel? C'est un peu paradoxal, c'est contradictoire de dire maintenant on fait un cours d'interculturel.
Oui, je pense que de plus en plus les échanges éducatifs sont pris en compte aussi, et les enseignants intègrent souvent maintenant des séjours à l'étranger, justement pour approcher la culture de l'autre dans son contexte. Et ensuite, il y a des discussions, il y a une réflexion sur les différences d'approche culturelle, de code culturel et d'habitus, en fait. Ces cours d'interculturel, ils sont extrêmement vivants. Et ça se fait dans l'échange, et ça se fait dans les analyses, par exemple, de chocs culturels aussi. Quel choc culturel on a pu ressentir à l'étranger?
Alors, qu'est-ce qu'on appelle un choc culturel? Donnez-nous un exemple, Dominique Groux.
Eh bien, un choc culturel. Mais par exemple, dans des pays très proches du nôtre, je pense à l'Allemagne. Eh bien, moi, j'ai vécu 2 ans à Berlin, et je me suis rendu compte que on n'avait pas la même perception de l'intimité en France et en Allemagne. Par exemple, en France, on est plus le privé, l'intime est peut-être plus fort qu'en Allemagne, dans la mesure où avec des personnes proches, on ne va pas forcément se livrer. Alors que, qu'en Allemagne, si on ne le fait pas avec des proches ou avec des amis, on est perçu comme, quelqu'un qui
de très secret.
De très secret, de très renfermé, qui a des choses à cacher, qui n'est pas simple, en fait.
Est-ce que ça se voit dans la ville? Parce que en Allemagne, plus encore aux Pays-Bas, une des choses qui m'avait marqué, c'est qu'il n'y avait pas de rideau aux fenêtres.
Oui.
Il y en a assez peu.
Oui, il y en a assez peu. Effectivement, à Berlin, il y en a très peu. Amsterdam, c'est la même chose.
Et donc, il y a une espèce d'injonction à la transparence.
Il y a une espèce d'injonction à la transparence, alors que chez nous, on est plus refermé, plus replié sur nous-mêmes.
Eh bien, merci beaucoup, Dominique Groux. Je rappelle que vous avez coordonné ce grand et intéressant dossier avec votre collègue Fabrice Barthélémy, le dossier sur l'interculturel qu'on peut lire dans la dernière livraison du Français dans le Monde, qui concerne ces deux derniers mois, janvier et février. Et je rappelle donc que le Français dans le Monde, c'est cette revue qui est éditée à destination des professeurs de français un petit peu partout autour de la planète. Merci bien d'avoir été dans la danse des mots. Vous voulez rajouter quelque chose ?
Nous avons encore donné une petite partie de dossier.
Oui, une petite partie, mais importante. Merci d'avoir été avec nous dans la danse des mots.